Bonjour frères et sœurs, et je suis très heureux d'être avec vous, pour partager avec vous ce que Dieu a à nous dire au travers de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Vous avez, vous tous, je pense, une Bible où il y a 66 livres dedans, où le Seigneur Jésus dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. On ne peut pas commencer une vie pour aller vers Dieu, au ciel, sans passer par Jésus. Et ici-bas, vous avez entendu le témoignage de notre sœur, qui vous a rendu le témoignage de sa maman, comment le Seigneur, dans sa bonté, eh bien, ne l'a pas laissé quitter la terre sans s'être réconcilié avec Dieu et Jésus. Ainsi, il n'y a rien de plus beau de commencer une vie avec Dieu, avec Jésus, et ici-bas, de la terminer avec lui. Vous savez très bien que nous sommes tous passagers sur cette terre. Et j'ai remarqué, et vous serez d'accord avec moi, je ne veux pas être morbide, mais j'ai remarqué ceci, c'est que sur la terre, il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de cimetière. Oui ou non? Comme ça. Vous allez dans les îles là-bas, Hawaï, Tahiti, toutes ces îles qui sont vers le Pacifique, où il y a une personne qui habite, eh bien, il y a toujours une tombe. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même a eu un problème avec nos premiers parents. Un grand problème de désobéissance à l'égard de ce que Dieu lui disait. Et Dieu lui-même lui a même dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et malheureusement, Adam a eu une femme, Dieu lui a donné une femme qui s'appelait Ève, qui veut dire vie, qui est la maman de tous les êtres humains. Et Adam, c'est le papa, le père de tous les êtres humains. Et ayant désobéi, la sentence de Dieu s'est accomplie littéralement. Est-ce que Dieu avait créé Adam et Ève pour la mort? Non, pas du tout. S'ils avaient observé, obéi à la loi de Dieu, eh bien Dieu les aurait gardés éternellement en vie. Vous m'entendez bien? En vie. Mais il y a quelqu'un qui est venu dans ce jardin d'Éden et qui n'a pas hésité à faire croire à nos premiers parents que ce que Dieu disait n'était pas réel, mais qu'ils ne mourraient pas, mais seraient comme des dieux, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais je vais vous dire ceci, c'est vrai qu'il y a Dieu, qui a créé les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et il y a un être terrifiant, un être qu'on ne voit pas, c'est un esprit, mais il s'appelait à l'origine Lucifer, chérubin aux ailes déployées, qui veut dire lumière. Il s'appelle Lucifer, veut dire porteur de lumière. Et lui-même s'est révolté contre Dieu, et cet être qui avait une position très près de Dieu, c'est en révolté, comment? Par l'orgueil. Et il a dit, je vais me faire égal à Dieu. Je vais me faire Dieu. Il a oublié que c'était une créature et que Dieu est le créateur. Et Dieu l'a chassé du ciel. Et où est-il allé? Sur la terre. Et où est-il allé pour essayer de faire du mal à Dieu? Il ne pouvait plus faire du mal à Dieu puisque Dieu l'avait chassé. Entre parenthèses, d'autres l'ont suivi. Mais il est allé sur la terre pour essayer de détruire la communion d'être innocent, créé par Dieu pour être en communion avec Dieu et marcher avec Dieu. Il a réussi. Il a réussi ce mauvais coup et nous en subissons les conséquences. Mais Dieu, par amour pour nous, nous a donné un rédempteur. Et il a dit ceci, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu le blesseras au talon. C'est ce qui s'est passé. Dieu a envoyé un sauveur, son propre fils, né de la Vierge Marie, étant conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour détruire les œuvres du diable, nous racheter pour Dieu et nous ouvrir la porte du ciel. Frères et sœurs, nous devons tout à Dieu, notre Père, qui a accepté de notre Père nous adopter en Jésus-Christ. Et nous devons tout à Jésus-Christ, parce que c'est lui le sauveur du monde. Et il est notre sauveur, il est mon sauveur. Et le Seigneur a dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » C'est pas possible. Vous savez, c'est tout le Seigneur Jésus. On est pour un maître et on va haïr l'autre. On aimera l'un et on haïra l'autre. Eh bien, mes frères et sœurs, cet après-midi, dans la présence de Dieu et de Jésus qui est au milieu de nous, nous disons, Seigneur Jésus, Seigneur, nous t'avons choisi. C'est toi notre maître. Et nous allons vivre, et nous vivrons pour toi, dans la communion avec toi. Et nous marcherons derrière toi, parce que tu es notre bon berger. Et le Seigneur a dit ceci, mon Père qui est plus grand que tous, me les a donnés en parlant de chacun de nous. Et Jésus a dit, mes brebis sont dans ma main, et nul ne les ravira de ma main, car je leur donne la vie éternelle. Frères et sœurs, unissons-nous tous dans la même pensée, dans un même saint désir de nous attacher au Dieu vivant et vrai, il n'y a qu'un seul. Tout le reste, ce sont des inventions humaines, désordonnées, diaboliques. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et il nous faut rester fermement attachés. Alors nous allons aller un peu plus loin. C'est vrai que le temps est court, ce n'est plus comme avant. Mais pendant quelques minutes, si je n'arrive pas à tout développer, et je pense que je ne pourrai pas le faire, mais je reviendrai pour vous l'expliquer. Alors, nous allons voir cela dans l'Apocalypse. Chapitre 21, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et j'entends souvent en ce moment des journalistes qui disent ceci, « Oh, ça c'est l'Apocalypse !» Quand ils voient des événements terrifiants, terribles qui se passent dans le monde, ils parlent Apocalypse. Mais Apocalypse ne veut pas dire événements terrifiants, terribles, ça veut dire révélation de Dieu qui nous explique comment le monde va continuer, comment le monde va chuter, comment le monde sera conduit, dirigé par Jésus-Christ lui-même, et comment le monde après, pendant 1000 ans, après les 1000 ans, comment le monde va se révolter contre Dieu, contre Jésus, et comment Dieu va le détruire par le feu. Eh oui, vous direz, pasteur, avec le Covid là, qui est là, et qui nous fait beaucoup de mal, et qui peut nous surprendre, nous qui ne l'avons pas encore, et je vous souhaite de ne pas l'avoir du tout, ni moi, mais il y a une chose qui est certaine, personne ne peut y échapper, c'est une décision que Dieu lui-même a prise, et nous donne par révélation, l'a donnée à l'apôtre Pierre, que ce monde dans lequel nous sommes va disparaître par le feu. Eh oui, c'est écrit. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Mais Dieu, en même temps, le Seigneur Jésus, va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Où la justice habitera. Où la justice, s'il vous plaît, répétez un peu avec moi, la justice. Oh, vous ne croyez pas qu'on est si bien sur la terre. Tout est sourire. Il n'y a pas de sang qui coule. Il n'y a pas de femmes battues. Il n'y a pas de petits-enfants torturés. Il n'y a rien. Tout est beau, tout est magnifique. Oui, pour celui qui a des lunettes en bois sur les yeux. Mais quand on regarde la terre, avec tous ces événements, tout ce qui se passe, nous n'avons qu'un seul désir. Enfin, moi, je n'ai qu'un seul désir. C'est que Jésus revienne bientôt. Qu'il revienne bientôt pour prendre le gouvernement du monde. Et mais ça viendra. Mais pour aujourd'hui, ce que Jésus veut, le Seigneur Jésus, pardon, désire et il veut, c'est prendre le gouvernement de notre cœur. Dieu dit, mon fils, aux hommes, donne-moi ton cœur. Le Seigneur ne demande pas notre portefeuille. Il ne demande pas notre tête. Vous avez peut-être fait de hautes études. C'est très bien. Ça ne dérange pas, les études. Mais si ça reste que dans la tête, vous avez une tête pleine, mais un cœur vide. Or, ce qui fait la valeur d'un être humain aux yeux de Dieu, c'est que son cœur soit plein de la présence de Dieu et habité par le Saint-Esprit. Alors, lisons dans Apocalypse chapitre 21, verset 6. Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Pour la bonne compréhension du texte, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel, vous voyez, je vous en parlais, hein, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. C'est ce que je dis souvent, dites-vous qui aimez vous baigner, allez vite à la mer maintenant, parce que plus tard elle ne va pas exister. Il n'y en aura plus. Mais oui. Et je me suis posé la question, pourquoi que Dieu va détruire la mer, ses océans, puisque les deux tiers de la terre sont dans l'eau. Parce que il y a eu tellement de gens qui ont été tués dans la mer, des gens qui se sont noyés, qu'on a tués, des guerres, des bateaux de guerre sur la mer. Et la mer a été tellement souillée. L'Écriture dit, et la mer rendit ses morts. C'est écrit ou pas écrit? Eh oui. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leur mort. Mais je ne veux pas sortir du sujet. Et je vis descendre du ciel, verset 2, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Tiens. C'est intéressant, ça. Qui c'est l'époux? Je ne sais pas si j'ai mes oreilles qui se bougent de plus en plus, mais depuis que vous avez un masque, eh bien, c'est souvent les voix sont confuses. Alors, je ne veux pas vous démasquer, hein, mais qui est l'époux?
Jésus-Christ.
Ah oui, vous me direz, oh, vous avez le micro, pasteur, c'est bien. Oui, c'est Jésus-Christ. Et l'épouse, la future épouse, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Église. Ah, c'est l'Église. Et qui est l'Église? Ça y est, elle en connaît de la parole de Dieu, Pierre vivante, c'est vrai. Approchez-vous de lui, Pierre vivante. Rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. C'est vrai, oui. Christ est notre divin époux. Et nous sommes sa fiancée. Mais pas les seuls. Ici, c'est une église locale. Et à Paris, il y a d'autres églises que Jésus bâtit. Mais sur toute la terre, Il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et le Seigneur habite dans leur cœur. Le Seigneur est au milieu d'eux comme au milieu de nous. Et le Seigneur les prépare pour aller au ciel, pour avoir une union spirituelle. C'est-à-dire, Jésus nous a choisis pour que nous soyons son Église, sa fiancée pour commencer. Et l'apôtre Paul dira, en parlant aux chrétiens de Corinthe, comme il nous parlerait cet après-midi, « Je vous ai fiancé un seul époux. » Mais de même que Ève s'est laissée séduire, je peur que vous laissiez séduire. Mes frères et sœurs, qu'il n'y ait pas d'autre tête au milieu de nous. Le seul qui doit avoir nos regards, notre amour, notre attente et nos désirs spirituels, c'est Jésus-Christ. Si c'est pas Jésus, vous avez été séduit par je ne sais qui, par un faux prophète, un faux pasteur, un faux docteur, dans les Saintes Écritures, ou un faux apôtre, ou un faux prophète, ou un faux Christ. Mais le vrai, il vient du ciel, pour nous emmener au ciel. Tandis que sur la terre, il y a beaucoup de séducteurs. C'est pour cela, j'aime cette parole de l'Écriture. Jésus a dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Elles n'écoutent pas la voix des... Tout ce qui est étranger à Jésus, dehors. Dehors de notre vie. Nous n'avons qu'une seule doctrine. C'est la doctrine de Christ. Et l'Écriture dit ceci, que si quelqu'un ne vous apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas « salut ». Car celui qui dit « salut » à une personne qui apporte une autre doctrine qui est que celle de Christ, il participe à ses mauvaises œuvres. Tandis que nous restons jusqu'à notre mort dans la doctrine de Christ. Et si quelqu'un vient me voir, non, monsieur le pasteur, moi aussi j'ai une bonne doctrine à vous amener. Je lui dis, écoutez, quelle est votre doctrine? Oh, mais elle vient d'Amérique. Et l'autre, moi je dis, j'en ai une autre qui vient du ciel. C'est Jésus-Christ. Et c'est la meilleure. Parce que la doctrine des hommes, quelle qu'il soit, elle meurt avec eux quand ils quittent la terre. Mais celle de Jésus-Christ, elle est éternelle parce qu'il est ressuscité pour l'éternité, il vit. À lui soit la gloire. Est-ce que vous comprenez? Bon, où voulez-vous aller, pasteur? Eh bien, voilà, vous allez voir. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Ah, c'est pas beau, ça. Dieu a dit, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pour cela, séparons-nous de tout ce qui déplaît à Dieu, de tout ce qu'il n'aime pas, de tout ce que Jésus n'aime pas. Séparons-nous de tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qu'il hait. Il a de la haine pour certaines choses. Il hait le mal. Alors, il faut surmonter le mal par le bien. Il faut nous attacher fortement au bien. Et le bien ne peut pas venir des hommes, parce que certains disent que le bien, c'est mal, et le mal, c'est bien. Eh bien, le bien, c'est Jésus-Christ. Et le mal, c'est le diable. Vous me direz, c'est simple, ce que vous me dites, eh ben oui, c'est très simple, mais c'est clair et net. Il ne faut pas jouer avec Satan. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas jouer avec les démons. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Mais il y en a qui est plus fort que les démons, plus fort que le péché, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on demande à Jésus d'intervenir en notre faveur, il le fait. Et c'est pour cela que Dieu lui-même sera avec eux, comme c'est décrit. Verset 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. C'est pas beau, ça? Eh oui, c'est ce qui va arriver dans le futur. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Mes frères et sœurs, nous sommes d'accord avec le Saint-Esprit et l'épouse de Christ qui dit « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. » Et Jésus dit « Je viens bientôt. » Et celui qui est assis sur le trône, verset 5, dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « C'est cas écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. » Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. » Verset 6, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, oh que j'aime cela, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Qui a soif de Jésus, j'ai soif de Jésus. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il a même rajouté, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et c'est vrai, il n'y a que Jésus qui peut désaltérer notre âme. Il n'y a que Jésus qui peut nourrir notre âme. Parce que Jésus, c'est le pain de vie. Et Jésus a dit, celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Et celui qui boit de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Avec Jésus-Christ, je suis désaltéré. Avec lui, je suis rassasié. Je n'ai pas besoin de courir d'église en église pour savoir où est la vérité. La vérité, elle n'est pas dans l'église, l'église, l'église. Elle est Christ. C'est Jésus la vérité. Et c'est vrai que Jésus bâtit son église. Or, une église qui prétend être dans la vérité, elle n'a qu'une seule tête, qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus, cet après-midi, est votre divin maître? Est-ce que Jésus, pour vous, quand il dit quelque chose, ce n'est que vérité? Et c'est vrai. Pour moi, c'est clair. En dehors du Seigneur Jésus, même les grands théologiens, même les fondateurs de religions, qui ont tirer des foules derrière eux, ils sont au cimetière, ils sont dans les cercueils, même quelquefois il n'y a plus de cercueil, on ne sait même pas où sont passés leurs os. Mais Jésus est ressuscité. Pourquoi je m'attache à lui? Mais parce qu'il est ressuscité. Si Jésus était toujours mort, mais je ne vois pas pourquoi je m'attacherais à lui. Moi, les morts, je les enterre. Mais Jésus est ressuscité. Et je vis dans cette espérance glorieuse qu'un jour, il viendra me chercher avec vous, tous qui marchez avec Dieu et Jésus, et nous irons dans son ciel, et nous serons avec lui pour l'éternité. Et nous disons, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Celui qui vaincra, c'est le Seigneur qui parle, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Eh oui, il faut combattre. Mais il y a un verset qui sort de l'ordinaire et qui nous fait vraiment réfléchir. Mais pour les... Oh, qu'est-ce que c'est qu'un lâche? Tiens. Là, mon petit frère, donne-moi ta main. Elle a une poigne, hein. Attention, c'est pas une moitié de bonhomme, hein. Il est costaud. T'as une bonne poigne, c'est bien, mon frère, moi aussi. On est deux à avoir une bonne poigne. Et pourquoi t'as enlevé ta main? Et pourquoi?
Parce que c'est le temps.
On se relâche? Mais je t'ai jamais dit de relâcher ma main. On la tient pour Dieu et pour... On recommence parce que vous avez compris. On la tient pour Dieu et pour
Jésus-Christ.
Ah, toi, tu parles bien, mon frère. Eh bien, oui, les lâches, ce sont ceux qui lâchent le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas tant de bien commencer qui compte, c'est de bien terminer. Eh oui, eh oui. Et quelquefois, je fais la comparaison avec ceux qui sont mariés, avec les couples. Alors, ils se rencontrent, tombent amoureux d'une manière éperdue, et puis tout de suite, on pense à la robe de mariée, on pense au beau costume, au smoking, et puis on prépare un mariage à tout casser. Oh, que ça commence bien. Ah, c'est mon chéri, c'est ma chérie, c'est mon amour. Les meilleurs noms, on lui donne. Et après, c'est les noms d'oiseaux. Pas tous, heureusement, merci Seigneur. Et puis, quelques mois plus tard, le foyer s'écroule. Ah, tout est ruiné. Et pourquoi? Parce qu'il y en a des deux qui a lâché. Je le dis souvent, quand dans un couple ça explose, même s'il y a des enfants, les deux sont responsables. Le mari est responsable de sa femme, et la femme, si elle est soumise à son mari comme au Seigneur, et que le mari aime sa femme, le Seigneur est au milieu d'eux, et il empêchera le foyer d'être brisé. M'entendez bien? Parce que nous servons le Dieu d'Abraham. Vous savez qu'Abraham a eu des problèmes? De sérieux problèmes, hein? Mais qui l'a secouru? Qui c'est qui est allé voir Pharaon? C'est Dieu. Parce que Pharaon voulait prendre la femme d'Abraham. Eh oui. Et Dieu est intervenu. Et lui a dit, je vais rendre cette femme à son mari, à la Marie. Et Abimélech, la même chose. Deux fois, ça s'est passé. Et Dieu a dit à cet homme, tu vas rendre cette femme à son mari, sinon, je te tue. Eh ben, on pensait le lendemain matin, il l'a rendu vite fait, hein. Eh oui. Quand Dieu est avec nous, il est avec nous. Il protège notre foyer. Il protège l'homme de convoitise de voir une belle femme et se laisser séduire. Il protège la femme de se laisser séduire par un homme. Le Seigneur est là et les démons et le diable qui est un destructeur de foyer, quand il vient, Jésus le met dehors. Vous le croyez? Mais il faut le croire parce que c'est vrai. Combien, au cours de mon ministère pastoral, je rencontrais des femmes et des hommes pleurant, et les enfants pleurant, parce que papa, il est parti avec notre femme. Et avec l'autre femme, ça n'a pas marché, encore une autre. Puis fait des enfants et encore une autre. Quelle misère! Quelle détresse, quelle souffrance. Et des hommes aussi qui ont vu partir leur femme. Mais quand le Seigneur bâtit un foyer, il est bâti sur le roc, sur Jésus-Christ, même pas la tempête, même pas les séductions, même pas le diable, même pas les légions de démons, le foyer ne se bouge pas parce que Jésus le tient, contrôle tout. Eh bien, Jésus nous contrôle tout pour que jamais on se détache de lui, mais qu'on lui reste attaché pour toujours. Si Jésus est capable de protéger un foyer, est-ce que Jésus n'est pas capable de nous protéger pour qu'on garde un amour pour toujours à son égard? On peut, grâce à Dieu, je suis pasteur depuis de très nombreuses années, et je peux vous assurer qu'on a déjà essayé de me séduire pour que je sois pasteur autrement, que je puisse aller ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que moi, je ne connais qu'un maître que je suis, c'est Jésus-Christ. Je suis à son service. Je ne suis pas au service des gens qui ont de l'argent pour me dire, « Ah, monsieur le pasteur, on veut vous prendre pour que vous puissiez, avec nous, fonder une nouvelle religion. » Moi, j'ai pas besoin de religion, j'ai besoin d'un sauveur, c'est Jésus-Christ, et de Dieu qui l'a envoyé. Alors, l'Écriture dit, mais pour les lâches, les incrédules, qu'est-ce que c'est que ces gens-là là qu'on rencontre? Donc les lâches, ils lâchent Dieu. Est-ce que vous avez entendu, mes frères et sœurs, la parabole du semeur et les quatre terrains. Oui. Et sur quatre terrains qui a été ensemencé, il y en a combien de terrains qui portent du fruit? Un. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qu'est-ce qui se passe au premier terrain? Le semeur sort, il sème, et l'Écriture dit qu'il sème le long du chemin. Aussitôt, des oiseaux viennent, ils prennent la semence, ils l'avalent, et il n'y a plus de semence. C'est l'image, c'est les cœurs qui croient tout ce que les autres disent. Les cœurs piétinés. Eh bien, je vous dis une chose. Là, je suis dans l'affaire. Hein. Mon cœur a une pancarte spirituelle, défense d'entrée, propriété privée. Pourquoi Dieu a-t-il mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Hein? Bravo! Bravo, mon cher frère. Pour le garder, le cultiver. S'il avait gardé le jardin, il aurait sauvé toute l'humanité. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardez votre cœur pour Dieu et pour Jésus. Ouais. Pour cultiver et le garder. Mais les incrédules, qui sont les incrédules? Mais je vais vous le dire tout de suite, parce que le temps est très court, hein, il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais plus tard, je reviendrai à vous, je vous donnerai la suite. Eh bien, c'est ceci. Les incrédules, je vais vous en montrer quelques-uns. Peut-être une fois, disons. Jésus était là au milieu de ses contemporains. Et Jésus les regarde et leur dit ceci. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. Et ceux à qui Jésus a parlé comme ça, ils étaient devenus incrédules à son égard. Tandis que nous, vous, moi, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, le premier terrain, je reviens, c'est les oiseaux. Je vais vous donner un conseil. Ne laissez personne, qui que vous soyez ici, piétiner votre cœur. Le seul qui a le droit de se présenter à moi et de marcher dans mon cœur, c'est Jésus-Christ. Vous avez compris? Deuxième terrain, le semeur sème la semence. Il sème sa parole, c'est Jésus. Et voici qu'elle lève tout de suite. Elle lève. Oh! Pasteur, certains me l'ont dit, vous savez, maintenant vous pouvez compter sur moi. Oh, ouais, mais je les attends toujours. Ouais, ouais, ça y est. Oh là là, je suis pour Dieu, pour Jésus. Je vais même monter sur l'estrade. Et je vais leur dire. J'en ai vu qu'ils sont montés sur l'estrade. Ils ont dit, et puis ils ont disparu. Mais oui, c'est comme ça. Alors la semence, elle lève. Elle sort aussitôt. Ce sont ceux qui ont de la joie. Mais dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils se font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Deuxième terrain. Parce que je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Et en dessous, il y a un peu de terre qui est bonne. Mais tout de suite, en dessous de la terre, il y a du rocher. Alors ça sèche. Ça veut dire que, normalement, il faut enlever la pierre. Tu as dit, j'ôterai leur cœur de pierre, et je donnerai un cœur de... Voilà. Et troisième. Sème. Et voilà que la semence, elle pousse. Et puis d'un seul coup, il y a une chose qui n'a pas été semée. Dis-moi, t'as pas un jardin chez toi? Oui. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton jardin en ce moment?
J'ai mis des tomates et des radis.
Purée, tu travailles bien, toi. Tomates et radis, ben ça c'est bien, mais la raison. Mais si je peux aller un peu plus loin, mon cher frère, et même avec ceux qui sont dans cette salle, Je crois qu'il y a aussi d'autres herbes qui poussent sans qu'on les ait semées.
Des mauvaises racines.
Hein ?
Des mauvaises racines.
Mauvaises racines. Là, tu dis que tu en as encore ? Eh bien, ne te fais pas de soucis, elles vont partir. Le Seigneur, il va agir. Comme pour moi. Comme pour tous ceux qui sont ici. Qui peut dire ici, je suis net de tout péché ? Mais l'Écriture dit que nous branchons tous, de différentes manières. Mais si quelqu'un déjà ne branche pas avec sa langue, s'il la tient en bride, c'est un homme parfait. Oh, pasteur, je ne suis pas venu pour entendre tout ça. Eh bien, tant pis pour vous, mes amis. Si vous voulez aller au ciel, eh bien, moi, je vous dis comment aller au ciel. En acceptant que Jésus détruise en nous toute parole blessante, toute parole de jugement, toute parole de, n'est-ce pas, qui blesse les âmes. Dieu veut qu'on ait un contrôle sur notre langue. Parce que c'est mauvais, ça ne plaît pas à Dieu. Eh bien voilà. Il y a des ronces et des épines qu'on n'a pas semées, mais qui poussent. Parce que la terre a été maudite à cause de Caïn. Vous n'avez pas lu ça? Et je vais vous dire qui sont ces épines. Tiens, dis-moi, chaque fois que je viens, il faut toujours que je leur prêche. Dis-moi, là, on va leur demander un peu ce qu'ils pensent, non? Très bien. Alors, trouvez-moi quelques épines, là, avant qu'on les dégage. Quelle est la jeune fille qui va m'en donner une? Pardon? L'amertume. C'est pas bon, l'amertume. Faut pas manger des herbes amères. Et l'eau douce, dans un cœur, l'eau douce ne va pas avec l'eau amère, c'est vrai. Non, c'est pas ça. Mais ce que vous dites, c'est juste. Quand on appartient à Dieu, à Jésus, il n'y a pas d'amertume. Qui est l'absinthe aussi, c'est l'amertume. Mais bon, mais pas, c'est pas ça. Un jeune homme, te voilà. Alors, donne-moi un peu une ronce, une épine. C'est à peu près la même chose. Hein? L'amour du monde. Ah, c'est pas beau, ça, l'amour du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu, du Père n'est point en lui. Mais c'est pas ça. Ah!
La rancune.
Qu'est-ce qui vient de dire la rancune? Et j'espère que tu n'as pas de rancune, mon frère. Non, 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 tu es plein de douceur.
Tu n'as
pas de mémoire? Eh bien, Dieu t'en donnera une bonne. Tu n'as pas de souci à te faire. Eh bien, je vais vous le dire. Et où est-ce que tu l'as lu, ça? Ouais, dans ta Bible, là. Et puis, lève la Bible, en plus. Oh là. Hors jeu divin. Oui. Non, non, non. Jésus parle des soucis de la vie. Les soucis, quand ça se développe en nous, ça étouffe la parole de Dieu. Et l'Écriture dit ceci, qu'il nous faut nous décharger sur Dieu, sur Jésus, de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. C'est clair? Quand vous avez un souci qui vous préoccupe parce que vous avez entendu ceci ou cela, ou bien dans le travail, ou dans votre couple, ou dans votre avenir, en pensant, Seigneur, j'ai un souci, ça me travaille, je peux pas m'en débarrasser. Seigneur, il dit, mais qu'est-ce que tu te fatigues avec ton souci? Apporte-le-moi. Apporte-moi ton souci. Parce que si tu me l'apportes pas, ça va devenir des ronces. Ça va se transformer en ronces et en épines. C'est clair? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. C'est ce que je fais. Vous n'en êtes pas compte que si, en recevant tant de personnes que j'ai reçues, que je reçois encore, dans mon bureau, et que je laisse les gens me remplir la tête, mais mes amis, je sors là, je m'écroule en sortant de mon bureau. Et comment que ça se fait que ça va très bien? Parce que, avec le respect que j'ai pour vous tous, il y a des dames qui sont venues dans mon bureau, des jeunes femmes, qui m'ont expliqué, parce que elles ont dit ce qui était dans leur cœur, elles m'ont expliqué tout ce qui se passait dans certains domaines. Je dis, stop, madame. Je suis pas une poubelle. Faut pas me raconter certaines choses du domaine sexuel. Ça me regarde pas. Vous pouvez le dire au Seigneur. Jésus est lui. Il vous secourra. Et d'autres m'ont raconté tellement de choses que si je vous lisais vos cheveux se dresseraient sur la tête. Mais pourquoi, monsieur le pasteur, il tient le coup? C'est pas grâce à moi. Je ne suis pas plus fort que les autres, ni les psychanalystes, ni les psychiatres, ni tous les psys, parce que c'est Jésus à qui je le dis. Et quand je dis cela à Jésus, je le prie, il me remplit de sa paix. C'est pas beau? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ensuite, il y a la séduction des richesses. C'est écrit ça. Séduction des richesses. Hein? C'est pas le boire et manger, c'est la séduction des richesses. L'apôtre Paul parle à Timothée et il parle de ceux qui se laissent séduire par les richesses de ce monde. Et quand on court après la richesse, quand on veut à tout prix s'enrichir, au détriment de notre âme, quand on croit que ce qu'on a, on le tiendra toujours, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sortis nus du sein de notre mère et nous rentrerons nus dans le sein de la terre. Nous n'avons rien à porter en venant sur cette terre et nous n'en porterons rien. C'est clair ou c'est pas clair? Ne vous laissez pas séduire par ces richesses. Comme ce jeune homme qui a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, à un certain moment, a dit, il te manque une chose. Va chez toi, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et puis, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Mais il est parti tout triste. Et il est mort tout triste. Parce que là-bas, ses richesses sont glissées entre ses mains, et la vie éternelle qu'est Jésus lui a échappé. Mais l'Écriture dit, jette l'or au torrent et le Tout-Puissant sera ton or. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les voleurs peuvent dérober, où la rouille et la teigne peuvent détruire, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. L'apôtre Paul dit que plusieurs ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Et quand nous sommes dans le besoin, quand nous avons un problème matériel, nous lui demandons son secours. Et le Seigneur secourt toujours ses enfants. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oui, les soucis, séduction de richesse et les épines, et la dernière, les plaisirs de la vie. La vie avec ses plaisirs. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, même d'étudiants et d'étudiantes, qui ont beaucoup souffert, bien sûr, à cause du Covid, mais surtout à cause de ce qu'ils ne peuvent plus s'amuser comme avant. Et c'est pour ça que vous entendez parler de certaines personnes, ils sont des centaines, à vouloir de nouveau de se donner des plaisirs, essayer de se retrouver comme autrefois. Ah, monsieur, autrefois, j'allais au bal, autrefois, je m'amusais, autrefois, eh bien, j'allais dans les boîtes de nuit, et ça me manque, ça me manque. Je suis tout seul dans ma chambre, et je fais de la dépression. Mais les plaisirs de la vie ne durent qu'un temps. C'est pas les plaisirs de la vie le plus important. C'est le plaisir de Dieu, d'être en communion avec Dieu, de chercher la face de Dieu, de marcher avec Jésus. Alors, notre plaisir est en Dieu et en Jésus. Et quand ces épines-là sont brûlées par le Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, la semence, elle pousse. Elle produit 30, 60, 100. et la moisson est abondante. Mes frères et sœurs, c'est mon dernier mot pour ce soir. Portez du fruit pour la gloire de Dieu. Portez du fruit. Et ne laissez pas le diable vous empoisonner, jeunes gens, jeunes filles. Ne laissez pas Satan venir vous séduire, vous tromper. Mais restez attachés à Jésus-Christ, attachés à Dieu. Et je peux vous assurer que vous irez jusqu'au bout. Comme dit ce beau petit cantique, « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. » À toi, Jésus, pour toujours. Oui, quels sont ceux qui sont d'accord? Seigneur, tu es au milieu de nous, parce que tu es Dieu. Tu as vu ces mains de mes bien-aimés frères et sœurs qui se sont levées. Eh bien, nous sommes d'accord tous ensemble pour que personne ne vienne piétiner notre cœur, notre foi. Nous sommes d'accord, Seigneur, pour ne pas laisser l'adversaire venir nous séduire et nous tromper. Nous sommes d'accord pour rester attachés à toi jusqu'à la fin de notre vie. Protège-nous, garde-nous, secours-nous, rends-nous solides, rends-nous inébranlables, enracine-nous tous sans exception dans la parole de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ. Je t'adore, Père. Nous t'adorons, Père Céleste. Et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Amen. Et amen.